Je ne vais pas te dire où se trouve le QG des féministas.
Oui, évidemment. Tu es une femme.
Ok, on va être très ferme.
Nous appelons toutes les femmes de la galaxie à joindre notre mouvement de lutte.
Putain les FN.
Nous avons aussi besoin d'un porte-parole qui sache écrire.
Les hommes étaient logiques et les femmes lubriques.
Salope!
Salut, salut,
salut.
C'est la rentrée de...
Putain les fans.
Sur les ondes de Radio Sainte-Afrique.
L'émission dont seuls les hommes en colère et les fans arrivent à prononcer le nom.
En même temps, si c'est pour se traiter nous-mêmes de putain de bonnes femmes en occitan, on va pas non plus se fouler pour la prononciation.
Au fait, vous avez remarqué que l'on ne s'appelle jamais par nos prénoms avec ma chère collègue? C'est normal, on préfère garder l'anonymat pour plus de liberté radiophonique, c'est ça la vie d'artiste.
Alors quand même, afin que vous puissiez mettre des noms sur nos voix, on s'est choisi des surnoms plus valorisants que les putes, hein, dont on nous affectionne régulièrement à la radio, n'est-ce pas?
Voilà, ce sera donc Cunégonde et Athéna pour cette fois, on essaiera de choisir mieux pour la prochaine.
En tout cas, on espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts, prêtes pour de nouvelles aventures avec nous. Et oui, nous reprenons le micro pour une nouvelle saison avec, en étant plus aguerris, plus remontés et plus rugissantes que jamais.
À noter que nos premiers pas sur les ondes sont réécoutables en podcast sur le site internet de Radio Saint-Af et ça vaut le détour. En résumé de la saison 2011-2012, vous pourrez vous imaginer dans un bar à champagne, accouchant de façon physiologique, en jetant des sorts à Rockefeller dans les mines de charbon du 19e siècle, ou bien hystérique dans les fleurines de Roquefort, en train de faire la méga teuf déguisée en poilu.
On vous laisse démêler tous ces sujets tranquillement chez vous, au calme. En attendant, pour aujourd'hui, on se fait une petite rentrée nostalgie de vacances.
Vive les vacances, les souris dansent et ça balance.
Vive les vacances, les souris dansent. Et ça balance, et ça romance. Vive les vacances, c'est notre enfance, l'adolescence, la renaissance.
À l'été, la saison du soleil, des légumes du jardin, des fêtes de village aux performances musicales hors normes, des barbecues entre potes, des petites histoires d'amour, des plongeons nus dans la rivière, des canoës qui fleurissent sur la rivière où tu te baignes à poil, des bouchons à Saint-Afrique le samedi matin, des camping-cars, de l'odeur des toilettes chimiques fraîchement vidées, des tubes de radio de supermarché qui te bouffent les oreilles, des souvenirs laissés par les automobilistes sur les bords de la route, des sourires mercantiles, des maisons inoccupées qui s'ouvrent deux semaines et qui se referment alors que tu espérais encore avoir un voisin pour passer l'hiver avec toi. L'été, quoi.
Bref, qu'on parte ou pas, l'été rime avec tourisme, qu'on le veuille ou non.
On citait tout à l'heure la question des Roms qui a été si souvent agitée, hein, pris comme bouc émissaire évidemment pour détourner l'attention d'autres problèmes. Et ces Roms-là, on leur reproche leur mode de vie 11 mois par an. Et le 12e mois, quand on cesse de travailler, on se dépêche d'accrocher une caravane au derrière et de prendre la route. Bon, ça s'appelle une caravane, on la met au derrière, on prend la route, alors que depuis 11 mois, on râle contre les Roms.
Mais
et puis quand on arrive à la retraite, on fait la même chose. On prend la retraite, on achète un camping-car et on est accueilli à bras ouverts. Bon, donc il y a un mécanisme comme ça, complètement ambigu, tout le temps.
Pastis parfum bleu, pastis délicieux.
C'est les vacances, viens, je t'emmène à dîner, faire l'amour dans mon camping-car.
Si on habite à Argelès, comme moi c'était mon cas, les saisons elles sont extrêmement marquées. Il y a une grosse différence entre le plein boom de l'été, où là tout est noir de monde, tous les commerces vont être ouverts, et puis l'hiver où d'un coup ça... ça fait vraiment un gros choc où voilà, tout est fermé, ça fait presque sinistre à la plage l'hiver. Bon, après, ça a son charme aussi d'être beaucoup plus tranquille. Quoi. Le tourisme de masse, il est vraiment concentré sur la plage. Je pense que les gens, quand ils viennent dans le sud, la majorité du temps, ils viennent chercher le beau temps et puis la mer. Pour les plus acharnés, ils peuvent arriver le matin à la plage et puis vers midi manger dans un snack, retourner à la plage, se griller d'un côté et de l'autre pour être rouge vif en fin d'après-midi, pour aller voilà, en fin d'après-midi boire un verre et puis le soir barouder dans l'allée des pins à recherche d'un cadeau ou d'un petit souvenir qu'ils vont se ramener. Les Anglais ont tendance à arriver bien blancs comme des cachets d'aspirine et surtout à garder leur socket avec leur... avec leur tongs. Non, non, c'est pas une légende. Ça fait un petit peu comme le film...
Les Ch'tis,
ouais. Ou le film sur les vacances.
Camping.
Voilà, c'est des bons résumés de ce qu'on peut voir dans l'été...
Ouais, ça ressemble assez
ouais,
à ça.
Ouais, c'est pas forcément parodié d'ailleurs. C'est même des fois un peu en deçà de la réalité, ce qui est même un peu inquiétant.
T'as rien contre les couverts en plastique ? Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi, j'ai découvert en plastique.
Après la création de Port Argelès, ça a été les normes européennes à respecter dans les campings. Donc tout ce qui était cabane plus ou moins insalubre, ça a disparu. Ça a été remplacé par de jolis mobilhomes très bien aménagés.
C'est pas inondable, là, on aurait mis un mobilhome ici.
Pourquoi vous n'achetez pas une maison ici alors ?
Ah oh, bah non, on serait obligé de venir là tout le temps.
Mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans.
Mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça, le camp.
Chaque camping essaye d'être plus beau que son voisin. Quand on est arrivé, c'était vraiment rudimentaire. Voilà. C'était très vieillot. Très vite, la mairie a entrepris une rénovation du vieux quartier. Bon, après, tout ce qui va avec la foule de gens qui arrivent, c'est-à-dire, bon, comme je vous disais, les routes, les parkings, toutes ces choses-là qu'il faut, parce que quand ces gens arrivent, il faut les mettre quelque part. Hein. Mmh. Et ça n'existait pas, il n'y avait rien du tout. Alors, il y avait des champs. Je laisse, pendant longtemps, on n'arrivait même pas à 10 000 personnes en hiver, et plus de 200 000 en été quand même.
Tu vois, Jean-Pierre, tous les ans, je me fais un nouveau copain. Et cette année, j'ai l'impression que c'est avec toi.
Ça va, vous êtes tranquille quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde là.
Oui, ça dépend. Il y a beaucoup de Hollandais surtout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Hollandais. Et puis ça ira, je pense que plus il y en aura. Hein. Moi, je m'en fous. Moi, je suis à mon coin, je suis tranquille.
On va choper, regardez-moi toutes ces gonzesses, elles sont toutes là pour ça de toute façon.
Ouais, elles sont toutes là pour ça, mais pas pour toi, t'as vu ta gueule.
Tu parles, toi, gros.
Ouais.
C'est toi qui dis ça, maigrichon. Mais c'est fou ça.
Vas-y, c'est à toi que je parle.
Non.
Alors, vas-y, c'est ta mère, Brandon.
Ta mère. On va pas commencer à s'embrouiller. On est là pour s'éclater, non? Alors on s'éclate.
Ouais.
Hé hey Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en Biafite, il faut que t'étales, hein.
On avait fait l'Ardèche à l'époque où c'était sauvage, la Haute-Loire, la Lozère.
Vous avez un petit côté baba cool en fait.
Moi je suis de la ville, alors quand on travaille, on a envie de campagne après l'été.
Ouais. Après, ça va passer sur la radio, non?
Ouais.
On va couper des bouts.
Qu'est-ce
qu'il a fait rire?
Alors étranger, elle est pas pittoresque, notre coutume locale.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. on regardait les autres gens. Comme ils dépensaient leur argent, nous, il fallait faire attention. Quand on avait payé le prix d'une location, il ne nous restait pas grand-chose.
Bon ben voilà, c'était notre petit montage souvenir de vacances d'un camping traditionnel aveyronnais et d'Argelès-sur-Mer. Vous aurez compris qu'on a aussi regardé des films super bien, genre Camping, Le ciel, les oiseaux et ta mère. On peut pas être tout le temps intelligente hein, non plus, bon... Pour l'année 2012, on peut quand même noter que 45% des Français ne sont pas partis cet été. Pourtant, il faut savoir que 70% des Parisiens, eux, sont partis. C'est pour ça qu'on en croise beaucoup, oui. Alors que les habitants de communes de moins de 2000 habitants ne sont que 47% à partir. Là, j'espère que vous suivez toujours. Dans cette histoire, il y a les sous qui jouent aussi. 78% de personnes qui disposent de revenus mensuels de plus de 3 100 € partent en vacances. Et les sous, ça parle travail. 71% des cadres supérieurs partent, contre 41% des ouvriers. Bon, et dans tout ça, il y a encore l'âge. Les plus de 70 ans ne sont partis que 33%. 33% d'entre eux sont partis quand ils avaient plus de 70 ans. Mais si même moi je m'embrouille alors là...
Bon, on va vous faire un petit résumé. En conclusion, si tu habites dans une commune de moins de 2000 habitants, hein, de préférence dans le sud de la France... que tu gagnes moins de 900 € par mois, et il y a de grandes chances pour que tu vois débarquer un Parisien, jeune cadre dynamique, qui gagne ton minimum vieillesse annuel en un mois. Tu feras très couleur locale, surtout si tu sais dire quelques mots en occitan. Il sera content, t'auras gagné ton portrait sur Facebook et tu ne seras peinard que l'automne arrivant.
Paraît-il que même si t'habites en Picardie, tu peux croiser des super touristes. Tout de suite, en voilà des beaux pour une petite interlude, les VRP.
Les vacances toujours réussies, venez respirer le grand air derrière la centrale nucléaire. Bienvenue en Picardie, la Côte d'Azur à moitié prix. Plus de place dans le camping, il faut dormir sur le parking.
Sur le parking.
11 mois de l'année, passez à travailler. Un repos bien mérité, vive les congés payés. Accident mortel, porte de la chapelle, la caravane est ruinée et la grand-mère est enterrée, oui enterrée en Picardie. Enterrée en Picardie, file les vacances pour mamie, elle qui aimait tant les fleurs, elle a de la chance dans son malheur. Enterrée en Picardie, c'est le bonheur pour la vie, pas de problème pour l'enterrement, l'assurance marche à 100%. Un bon plateau de fruits de mer au restaurant du port. Peut-être qu'on a eu tort sur la plage l'après-midi. Le doute n'est plus permis. On court à la pharmacie. Voilà la pluie. Quel ennui en Picardie. Quel ennui en Picardie. Quel ennui en Picardie. Pas de soleil aujourd'hui. Les journées ne sont pas si bières. Aujourd'hui on a de la fièvre. Quel ennui en Picardie. Il faut rentrer sur Paris, plus que 6 mois de galère en attendant. L'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver en Picardie.
L'été, c'est imparable, il faut un bon livre de plage pour aller faire bronzette au bord du Tarn. En plus, on a une image de bimbo qu'on a dans le ciboulot à Paternier. On a donc choisi le tourisme, émancipation ou contrôle social de Rodolphe Christin et Philippe Bourdeau, qui n'a pas quitté notre sac à main. Quelques extraits. Il faut, sans être dupe, se laisser porter par la magie des mots. Tourisme. Le terme évoque la détente, le soleil, les vacances, des lieux préservés apparemment à l'écart des pressions du travail. Le touriste passe aux yeux de son frère siamois le travailleur, en réalité ces deux-là ne font qu'un, pour un individu sans responsabilité, un gentil branleur évoluant à l'écart des choses sérieuses de la vie quotidienne. Le touriste ressemble à un léger bienheureux qu'on envie en sourdine. Sa situation temporaire de passager sans souci lui permet d'échapper aux contraintes de la vie laborieuse et de s'adonner à une vie ludique dans des lieux sans tracas. On évoque alors ce personnage avec ironie, une petite moquerie accrochée au visage, tout en caressant l'espoir qu'advienne bientôt notre tour.
Le tourisme est devenu un phénomène si répandu et si banal qu'il semble aller de soi. L'érosion du taux de départ en villégiature des Français ne remet pas en cause cette aspiration. Au contraire, le tourisme en vacances reste l'idéal banalisé de la société du travail et des loisirs, un idéal doté du privilège d'être peu contesté. Tout mélangé, par exemple, en ne distinguant pas le séjour gratuit chez des amis du séjour balnéaire marchand, ôte au tourisme ses angles d'attaque. Il apparaît alors comme un objet neutre et bon enfant, rendu imprenable par sa banalité apparente. En faire un phénomène naturel est en effet le meilleur moyen de justifier implicitement le tourisme et de le tenir à l'abri d'évaluations autres que comptables et économiques. Le tourisme est un phénomène dont l'expansion est intimement liée à la société du travail salarié, à la généralisation de la classe moyenne.
La touristification de la société crée à des fins de contrôle et de gestion dites rationalisées des organisations parallèles. Itinéraire effleurant le réel à l'image des voies suspendues au-dessus des modes de vie locaux. Cela se traduit notamment par la mise en place de flux de circulation spécifiques, organisés autour d'attractions et par la construction d'infrastructures matérielles adéquates. Hôtellerie, circuits balisés, modélisation des lieux sous forme de parcs, aménagement des côtes, etc. Où que l'on soit, ces types d'aménagements se ressemblent étrangement. On peut se retrouver à l'autre bout du monde ou dans une grande mégalopole et ressentir une impression de déjà-vu assez troublante. Même si le décor général a changé et respecte un apparat conforme à l'idée que se fait le touriste de sa destination, idée inculquée par l'imagerie véhiculée par la communication touristique. Cette normalisation génère des espaces de synthèse séparés où tout est créé. Et dessine une géographie dévouée aux loisirs et à la qualité de vie, selon l'image formatée d'un soi-disant bonheur qui permet de se détendre à la manière d'un réfugié menacé par la trépidation de la vie. Le parc promeut, protège et transforme toute la vie qui l'entoure en produit. Même ce qui peut au premier abord sembler authentique, sauvage ou naturel devient un produit, jouissant de sa non-production. Dans un tel contexte, les régions et les peuples convertis au tourisme devront multiplier leurs efforts pour fixer leurs identités respectives et les forger pour qu'elles répondent davantage aux attentes des visiteurs qu'à leurs propres besoins. Le désir d'ailleurs des uns l'emporte alors sur le désir d'être soi des autres, sous le prétexte hautement fallacieux de vouloir se développer à tout prix. Un monde ainsi transformé en Disney World enrichit les plus aisés qui font commerce des plus pauvres, de leurs rêves toujours et de leur corps parfois, de leurs paysages photogéniques et de leurs cultures authentiques.
Le tourisme est l'indispensable industrie d'un capitalisme mobilitaire qui alimente la demande en jouant sur l'insatisfaction permanente propre au désir de consommation. Cette forme de frustration entraîne le mouvement. Au plan psychologique, vivre ici ne doit pas suffire. Ailleurs se trouvent des réserves de détente, de divertissement et de sensations renouvelées. Il faut en profiter, sans quoi la vie perdrait en intensité et deviendrait même impossible. À l'extrême, partir permet de tenir le coup dans une quotidienneté que diverses pressions rendraient invivable si l'on devait y demeurer toute l'année privé du loisir touristique. Le divertissement fait oublier la molle dureté des conditions de vie. Malgré un niveau de confort matériel inégalé qui ne masque pas l'anxiété générale et l'ennui atone qui tenaille nos sociétés. Le consommateur-producteur a donc besoin d'une multitude de sollicitations qui détournent son attention tout en le poussant à consommer. Le tourisme propose de quoi oublier ses soucis, à défaut de permettre de régler ses problèmes. Il y a dans la mobilité quelque chose de virtuellement incontrôlable qui, de toute époque, a marginalisé nomades et vagabonds. Or, le touriste est la version domestiquée du nomade, tout comme le jardin de ville est la version toilettée de la nature sauvage. Il est désormais difficile d'échapper à la règle de l'ère dédiée, qui accueille, organise et contrôle à la fois.
New York pas cher, Pékin en 3 jours, le Mexique presque sans dépenser un pesos, Venise et Vérone pour amants pressés, Safari Express dans le Ngorongo, week-end de course à Londres, les buts affichés par les guides de voyage parlent d'eux-mêmes. Si préparation il y a, elle est express et vise le plus souvent à ne pas se faire arnaquer par l'industrie touristique locale. Un comble. Nous ne partons pas à leur découverte. Le plus souvent, nous partons là-bas que pour les consommer. Faire les châteaux de la Loire, faire l'Égypte ou faire le Brésil, comme on fait ses courses, comme on se fait un mec ou une nana. Le voyage n'est pourtant pas mort, n'en déplaise aux élitistes et autres matuvus des chemins de Katmandou. Rien ne nous empêche aujourd'hui de partir en voyage, de nous préparer en apprenant la langue des femmes et des hommes dont on va, un temps, partager, même de loin, le quotidien, en ayant en tête que le but d'un voyage ne peut être la collection de photos que l'on flanquera sur le net à son retour, comme autant de trophées dérisoires.
Si, si, on vous jure que c'était des extraits de notre livre de plage. Je me suis dit qu'à 25 ans passés, il était temps d'arrêter les arlequins.
Et oui.
Et maintenant, parlons de vacances entre guillemets moins agréables. On vous laisse deviner lesquelles avec Catherine.
Je passais mes vacances à l'hôpital. Je ne sais si je vais mal, mais j'étais si bien sans vous. Dans les journées ensoleillées encore. Je pensais bien que j'oublierais toutes mes vacances à l'hôpital, tous les endroits où je vais m'amener. Quand la nuit tombera, je replierai mes bras.
Passons à quelque chose de radicalement différent, pour fuir le brouhaha oppressant des estivants de la vallée au mois d'août, on est monté sur le Causse au-dessus de Millau, au festival Clair de Lutte, ambiance plus studieuse, entre expos, débats et projections de films sur le thème des murs.
Notre attention a été retenue par la partie sur la folie et l'enfermement. Si vous êtes de fidèles auditeurs, ce dont on ne doute pas, vous aurez remarqué que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on a déjà abordé en mai 2011 avec l'émission « L'hystérie, la folie ». Et l'antipsychiatrie. À l'occasion de ce festival, on a donc pu interviewer Émile Rafovitz, psychiatre venu intervenir lors de la projection du documentaire « Un monde s'en fout » de Philippe Borel.
Je suis médecin psychiatre et psychanalyste à Paris, en région parisienne, et j'ai été formé à l'ancienne formation par l'internat des hôpitaux psychiatriques a été supprimé en 1989 et qui n'existe plus et qui en fait avait été mis en place à la suite de la séparation de la neurologie et de la psychiatrie intervenue dans les années 70. Et cette séparation neurologie-psychiatrie a bénéficié de la psychiatrie dans la mesure où s'est constitué tout un corps de professionnels, des psychiatres, qui se sont tournés vers la neurographie psychiatrique, c'est-à-dire la recension des troubles psychiatriques uniquement, et qui laissait de côté tout l'aspect neurologique aux neurologues, aux organistes, organicistes, J'ai été interne, après assistant. J'ai dirigé un centre médico-psychologique pendant plusieurs années qui s'occupait d'adultes dans le cadre de la politique de secteur qui a été une particularité française magnifique qui a été mise au point dans les années 60 par une circulaire et qui avait cette particularité de prétendre non pas soigner les patients psychiquement en difficulté uniquement à l'hôpital, mais de les accompagner dans leur parcours au niveau de la cité, de la ville, sur leur lieu de vie. Nous avions, nous, la possibilité de pouvoir les suivre, de leur rendre visite, des visites à domicile, ou de venir au centre médico-psychologique qui était en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Et j'étais pendant plusieurs années médecin responsable, et puis il y a eu la mise en place alors d'une autre politique de psychiatrie qui était davantage, qui est venue largement en tout cas mettre de côté tout ce qui était la psychiatrie avec cependant psychanalytique, puisque dans les années 20, 30, 40, il y a eu comme ça pas mal de psychiatres qui se sont tournés vers la psychanalyse, qui sont devenus dans les années 1930, 1940, 1950, bien entendu, et qui ont irrigué la psychiatrie de leur éclairage psychanalytique. Et tout cela, il y a 15, 20 ans, a petit été grignoté par tout un autre courant qui était relativement minoritaire dans les années 60-70, qui existait, bien entendu, mais qui est venu largement d'outre-Atlantique, des États-Unis. Et alors là, je veux nommer le behaviorisme, le comportementalisme, qui tenait davantage à une rectification du comportement humain, et non pas à une difficulté du sujet souffrant, et qui, donc, aujourd'hui, conteste, vient sur dans le domaine de la psychiatrie, dire qu'il faut s'occuper de patients en les éduquant, avoir le bon comportement, en les amenant à avoir un comportement de sociabilité, voire même de les affubler de, pour les enfants, par exemple, en difficulté, parce que ça touche bien les adultes que les enfants, bien entendu. On voit apparaître de plus en plus dans les écoles des AVS, c'est-à-dire auxiliaires à la vie scolaire, pour que ces enfants puissent effectivement s'adapter au système ordinaire. Donc on les orthopédie, c'est une sorte d'orthopédie de la vie psychique, plutôt que de, comme la psychanalyse ou comme la psychiatrie humaniste avait coutume d'aborder ces difficultés en s'intéressant à leur histoire, à leur anamnèse, à leur façon de, finalement, fabriquer les symptômes, parce que cette fabrique de symptômes voulant, d'une certaine manière, tenter, en tout cas, de réparer ou de, je dirais, répondre à des questions d'existence que le sujet dans l'existence peut rencontrer. Donc, mon parcours, pour terminer, mon parcours était de cette filière-là, donc psychiatre, formé par la psychanalyse aussi, et là je m'occupe actuellement, je suis médecin directeur de ces MPP, Centre Médico-Psychopédagogique, toujours en région parisienne, et toujours me revendiquant bien entendu de la psychanalyse.
Oui, j'ai lu un article là récemment sur les centres comme ça, qui prennent en charge les enfants autistes, et qui visent exclusivement justement à normaliser leur comportement en collectif, quoi, et voilà. pas vraiment à pas obtenir une guérison quoi que ce soit, mais à une réinsertion, une normalisation,
voilà.
Quoi.
Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant plusieurs années, hein, depuis Kanner, parce que c'est Kanner qui a isolé en 1943, qui a isolé le syndrome dit autiste. D'autisme. Après, il y a eu même d'ailleurs, de façon curieuse, d'ailleurs 2 ans après, un certain psychiatre autrichien, d'origine autrichienne, ils se connaissaient pas a priori, ils ont isolé en 42 et 44 un syndrome. Alors, donc Kanner, c'est l'autisme, et le psychiatre autrichien s'appelle l'Asperger, le syndrome d'Asperger, qui lui, alors, considère qu'effectivement, ce sont des enfants, à la différence de l'autisme, où il n'y a pas d'accès au langage, l'Asperger, lui, dit de haut niveau, qui font beaucoup parler d'eux, puisque ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui ont un niveau d'élaboration extraordinairement développé dans des domaines extrêmement précis, et refont le monde, bien entendu, et peuvent effectivement des prouesses sensationnelles dans tel ou tel domaine, des calculateurs absolument prodigieux. Mais bon, voilà, donc il y a eu comme ça des isolements de syndrome autistique. Et puis la psychanalyse a eu sa lecture, en tout cas de ce fait-là, en disant que c'était des formes de psychose, que ce sont des enfants qui ont tenté de se guérir, entre guillemets, puisque je tiens toujours comme essentiel la phrase de Freud qui dit que le délire n'est pas une excroissance anormale de l'être, mais une façon qu'a un sujet de se soigner. Voilà, de se soigner, il répond, là encore, par son délire, à une difficulté d'existence. Donc l'autisme procède de la même manière. Alors là, pour le coup, en soi, en produisant un délire, après tout, pourquoi pas, mais à sa manière, bien entendu, ou alors en se retirant du langage. Et puis, donc, ça a été une réponse psychanalytique, en tout cas, c'était une approche psychanalytique, non pas une réponse, mais une approche psychanalytique. Et puis, il y a, de plus en plus, depuis 15-20 ans, une autre façon de voir l'affaire, en disant que la génétique, la réponse génétique pouvait aussi faire l'affaire et dire qu'il y a eu toute une série de recherches initiées aux États-Unis là encore, aussi reprises en France par des professeurs de psychiatrie et qui ont tenté et tentent encore d'isoler une difficulté génétique pour expliquer ce syndrome autistique. Alors bien entendu, ça donne lieu, comme vous le dites, à des manières d'accueillir les autistes, soit on considère qu'effectivement il faut réapprendre à ces enfants ce que veut dire être en société, et il y a eu aux États-Unis aussi la promotion de méthode ABA notamment, qui consiste effectivement à récompenser l'enfant qui fait le bon geste, qui a le bon comportement, et qui vient comme ça, qui tient beaucoup à l'idéologie behaviorisme, à l'idéologie de comportementalisme, et qui, là encore, s'appuie sur une idée assez simple, et même, je dirais même simplette. Le comportement doit être rectifié, eh bien rectifions-le, et donnons à ces enfants un entourage éducatif extrêmement serré, avec un système de récompense, qui fait que l'enfant va être conduit à opérer des comportements extraordinairement adaptés. Et tout cela, bien entendu, fait fi de ces autres trouvailles qui...
Donc c'est un peu du conditionnement à la Pavlov, quoi.
Voilà. Vous le dites en très peu de mots, mais c'est la rééducation pure et simple. C'est-à-dire qu'on ne se fout réellement de l'histoire d'un enfant, hein, de sa survenue dans telle ou telle famille, s'attache essentiellement au comportement et aux symptômes. Voilà.
Vous pensez que, donc, par exemple, dans le film Un monde s'en fout, on voit que pour les personnes bipolaires, ils arrivent à trouver des gadgets techniques comme des implants dans le cerveau qui vont réguler les hormones et les...
Oui, alors ça c'est la tentative, la réponse organiciste, hein, bien entendu. Là vous dites par exemple bipolaire, vous voyez, c'est passé dans le langage courant. De mon temps, parce qu'on peut aussi parler comme ça, de mon temps, ces gens qui présentent des phases d'excitation et des phases de dépression s'appelaient des psychoses maniaco-dépressives, par exemple. Et même au niveau vocabulaire, il y a eu toute une révolution nosographique et lexicale qui a consisté évidemment à biffer tout ce qui pouvait faire référence à une autre façon de concevoir la maladie mentale. Là où il y avait psychose maniaco-dépressive, on est maintenant bipolaire. Mais en plus de cela, le bipolarisme, si je peux m'exprimer ainsi, touche maintenant l'ensemble des comportements. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver taxé de bipolaire alors qu'on est un peu triste et un peu gai parfois, et tout cela pouvant relever du bipolarisme et de son traitement qui suit, bien entendu. Donc ce que vous dites, par exemple, les implants, ça peut être du côté de la bipolarisation, le bipolarisme, mais ça se retrouve aujourd'hui malheureusement sur des pathologies qui relèvent pas de la psychose, mais qui relèvent de la névrose obsessionnelle. Alors on appelle ça des TOC, vous voyez, donc il y a aussi une rectification au niveau vocabulaire, on n'appelle plus ça des syndromes obsessionnels, on dit des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et aux États-Unis, il y a de plus en plus de tenants, de plus en plus. J'exagère, c'est pas une épidémie, heureusement, mais en tout cas des gens qui tentent de rectifier ces troubles obsessionnels compulsifs, qui peut être effectivement très invalidants, ça aussi, il ne faut pas nier l'importance de ces troubles, ils tentent de le rectifier par des implants neurologiques pour essayer de briser, entre guillemets, ces comportements qui peuvent effectivement rendre la vie extraordinairement difficile aux gens qui en sont porteurs, ça c'est sûr. Là où la psychanalyse aurait plutôt tendance à dire que la névrose obsessionnelle relève davantage d'une cure analytique, bon, les tenants de ces méthodes contestent en disant que c'est des dysfonctionnements cérébraux qu'il s'agit effectivement de rectifier par des implants dans le cerveau.
On voit aussi justement qu'il y a une multiplication des termes de des maladies, des pathologies. Et vous pensez que c'est finalement c'est nous qui les créons, ou alors il y a vraiment une propagation de on va de plus en plus mal.
Aujourd'hui, on assiste effectivement, comme vous le dites, par exemple, à ces multiplications de pathologies. Par exemple, la nomenclature aujourd'hui qui veut faire langage commun, c'est-à-dire entre tous les types, c'est le DSM. C'est un sigle américain qui veut dire disease, statistique, quelque chose. DSM-3, ça, on a commencé par DSM-2, après DSM-3, DSM-4, DSM-5 va sortir, je crois, et c'est une liste incroyable de comportements taxés de pathologies. Et il faut vous dire que bon nombre de ces des psychiatres qui se réunissent pour inclure ces nouvelles façons de pointer le dysfonctionnement des êtres humains, ce sont des psychiatres qui ont des accointances avec la pharmacie, avec l'industrie pharmaceutique. Et alors, certains qui commencent à parler, d'ailleurs, hein, des gens qui sont outrés de la façon dont les choses se passent, vous diront que nous en sommes à créer une molécule chimique et de convoquer quelques psychiatres pour dire, écoutez, maintenant vous trouvez les symptômes qui vont avec la molécule. Et tout ça pour effectivement rendre plus commercialisable certaines molécules auxquelles on n'aurait jamais songé s'il n'y avait pas ces particulières façons de stigmatiser tel ou tel comportement, d'en faire des maladies. Et nous en sommes maintenant à une extension exponentielle du DSM-4 qui inclut, je vous dirais, presque tous les comportements humains vont bientôt se trouver dans le DSM-4 et ne plus revêtir que simplement une façon de distribuer les médicaments à tire larigot au plus grand bénéfice des industries pharmaceutiques, bien entendu. Donc voilà, donc cette multiplication, y compris l'autisme, hein, d'ailleurs, je veux dire que le syndrome autistique tel que Kanner ou Asperger l'ont défini, trouve maintenant des extensions assez étonnantes, y compris même les d'autres syndromes de psychiatrie, hein, la schizophrénie, les formes de schizophrénie, alors en étant tout cela, et malheureusement, je dois dire que j'ai pu moi-même constater que c'était pour justifier la prise de certains médicaments qu'on étendait à des certains comportements, on étendait certains syndromes ou symptômes. Et ça, je dois dire que c'est une des pentes dans lesquelles effectivement nous sommes pris, et qui fait que les psychiatres, bon nombre de psychiatres en tout cas, sont outrés.
Vous faites partie du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire qui dénonce la réforme de l'hospitalisation d'office votée en 2011. Et pour vous, quelles sont les conséquences de cette loi?
Alors, je dois dire, alors pour être très précis, je ne fais pas proprement partie. D'accord. De l'appel de collectif d'appel des 39, ça a été initié en 2008 à la suite de la venue de Monsieur Sarkozy, président de la République, à l'hôpital d'Antony. Il avait tenu des propos extrêmement choquants pour un psychiatre de faire des malades mentaux et des délinquants potentiels, voire des criminels potentiels, et de donner à tous les hôpitaux, toutes les structures, des sommes non négligeables pour les équiper en appareils de sécurité, de surveillance, d'appareils de caméras, enfin bref, essayer un peu de faire en sorte de prévenir la criminologie ou l'aspect criminogène de l'aspect de la maladie mentale. Bon, je n'étendrai pas là-dessus parce que c'est très très compliqué, mais cet aspect sécuritaire, la nuit sécuritaire, a voulu en tout cas pointer le fait que nous nous étions rentrés dans une politique qui augmentait la ségrégation, faisait du malade mental un criminel potentiel, un délinquant potentiel, et de dire qu'après tout, il fallait scinder le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient un comportement tout à fait normal, et puis des gens qui étaient potentiellement dangereux, criminels potentiels, et tout cela évidemment dans une dichotomie tout à fait dramatique, dans la mesure où, disons que la pente aujourd'hui, c'est de dire que finalement, il y aurait une société bien ordinaire, bien apaisée. On revient finalement à ce que le 19e siècle avait déjà pointé, c'est-à-dire une certaine idée que le fou est criminel potentiellement, alors que l'homme normal n'a évidemment pas de pulsion criminelle, évidemment. Cela fait un peu sourire quand on voit le niveau de violence dans lequel le monde entier est arrivé. Oui,
et en plus, ça se passe au niveau-là de la santé mentale des gens, entre guillemets, alors que c'est dans plein de domaines. Voilà. Quoi. Il y a tendance vraiment à... Il y a les criminels, il y a les gens normaux.
Voilà. C'est qu'on explique, on essaye d'avoir une espèce de dépotoir dans lequel on déposerait nos pulsions les plus régressives et les plus criminelles, dans un coin, histoire d'être un peu allégé du poids de ce que représentent effectivement toutes ces pulsions qui viennent un peu nous titiller dans nos rêves et dans nos vies respectives. Et on revient à quelque chose qui effectivement fait fi de ce que la psychanalyse a pu découvrir, du fait que tout cela est en nous et que bien entendu, il y a des gens qui négocient cela, on va dire ça comme ça, négocier plus ou moins bien dans leur existence, et d'autres qui, pour des raisons qui tiennent à des effets de transmission, de génération en génération, et des effets de décision personnelle peut-être, optent pour une autre façon de résoudre cette difficulté d'ambivalence dans laquelle nous sommes les uns les autres embringués dans nos vies respectives. Et cela, bien entendu, au plus grand dam de la psychiatrie qui avait mis plus de, disons, une centaine d'années à se transformer petit à petit en quelque chose qui acceptait de vivre avec des gens qui avaient opté pour une relation, disons, un peu ceux qui délirent, ceux qui vont très mal, nous parlent de notre humanité encore de façon encore plus extraordinaire que n'importe quelle production pourrait le faire, une sculpture, une peinture, tout cela dit comment l'être humain, la pensée humaine peut être créatrice à sa manière, bien entendu, à sa manière.
De Michel Rivegauche, sur une musique de Marguerite Monneau, Les blouses blanches. Ça fera bientôt 3 années qu'elle est internée, oui, internée avec les fous, avec les fous. C'est à cause de si elle est là, seulement voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater, la vérité. Alors comme elle en a assez de pleurer, de toutes ses forces elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Et à chaque fois il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent non, vous n'êtes pas folle, pas folle, pas folle. Les blouses blanches, elle aussi, elle en a eu une blouse blanche. Ah non, c'était une robe, petite robe blanche, une petite robe blanche avec des fleurs. Il y avait du soleil tout autour des fleurs, et dans sa main, elle, il y avait une main. Belle main avec des doigts qui chantaient, qui chantaient, qui chantaient. Encore les blouses blanches, ça fera bientôt 8 années qu'elle est internée, oui, internée avec les fous. avec les fous. Un grand trait sur les 8 années, tout comme si rien ne s'était passé. Une nuit à lire, à leur voler, leur 8 années. Tiens, v'là la main comme le jour de la robe blanche. Mais pourquoi qu'elle a mis toutes ses blouses blanches? Non, puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Vous voyez bien que c'était vrai. Moi, je savais qu'elle reviendrait. La main, la belle main qui riait, riait, riait. On s'aimera toujours, mon amour, toujours, mon amour, toujours.
Bon, on ne refermera pas cette émission par le supplice de passer en revue tout ce qui nous a choqué ou pas dans l'actualité de l'été. Ce serait un peu lourd et il y en a qui le font déjà très bien pour nous.
Cependant, on a tout de même suivi un peu ce qui se passait en dehors du département, voire du pays.
Ça arrivait, oui.
Alors, juste une petite pensée pour les Pussy Riot qui en ont bien bavé et puis ben, qui n'ont pas fini.
Sur ce, on vous laisse.
On vous laisse. Bisous, bisous.
Режима просит прощения от феминистского клина.
Путь России!